les médiatiques les suivirent jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Ils essayèrent ensuite de parvenir jusqu'à Dan, mais la police militaire arrêta le VEM qu'ils avaient affrété, en mit une douzaine en prison à titre d'exemple et annula les visas d'Istrans des autres. Le soir même, Sol alla se promener sur la crête qui dominait le village pendant que Judith veillait sur la petite fille endormie. Il s'aperçut que ses conversations avec Dieu étaient devenues audibles et résista à l'envie de secouer le poing en direction du ciel, de crier des obscénités ou de jeter des pierres. Au lieu de tout cela, il posa de nouvelles questions qui se terminaient toutes par le même mot. Pourquoi ? Il ne reçut pas de réponse. Le soleil d'Hébron se posa derrière les montagnes lointaines et la roche autour de lui brillait en restituant la chaleur du jour. Il s'assit sur un bloc et se frotta les tempes des deux mains. Sarai. Ils avaient vécu une longue existence ensemble, malgré la tragédie qui les avait frappés. Quelle ironie qu'au moment où elle prenait pour la première fois un peu de repos chez sa sœur, il se mit à gémir tout haut. Le piège, naturellement, c'était qu'il n'avait su voir que la maladie de Rachel. Ni elle ni lui n'avaient été capables d'envisager ce qui allait se passer après la mort, la disparition de leur fille. Le monde était articulé autour des jours que vivait Rachel, et ils n'avaient pas accordé une seule pensée à la possibilité d'un accident, cette antilogique perverse d'un univers aux tranchants acérés. Sol était sûr que Sarai avait envisagé comme lui le suicide, mais aucun des deux n'aurait pu se résoudre à abandonner l'autre. Ni Rachel, bien sûr. Il n'avait jamais songé qu'il pourrait se retrouver seul avec sa fille si... Sarai. C'est à ce moment-là que Sol se rendit compte que le dialogue souvent amer et virulent que son peuple entretenait avec Dieu depuis tant de millénaires n'avait pas pris fin avec la mort de l'ancienne terre, ni avec la nouvelle diaspora, mais se poursuivait encore. Rachel, Sarai et lui en faisaient partie, et ce n'était pas fini. Il laissa la douleur le pénétrer. Elle prit la forme d'une résolution acérée comme une arme d'acier aux multiples lames. Debout sur la crête, il versa des larmes amères dans l'obscurité qui tombait. Le lendemain matin, lorsque les rayons du soleil envahirent la chambre de Rachel, et qu'elle ouvrit les yeux pour lui dire bonjour, il était là pour lui répondre. « Bonjour, ma chérie.
Où sommes-nous, papa ?»«
Nous sommes en voyage, dans un très bel endroit. »«
Où est maman ?»«
Elle est chez ta tante Theta aujourd'hui. »«
Est-ce qu'elle reviendra demain ?»«
Oui, ma petite fille. »« Et maintenant, nous allons t'habiller et puis nous descendrons prendre le petit déjeuner. »
Sol posa sa candidature auprès de l'église Grichtek lorsque Rachel eut 3 ans. Les voyages à Hyperion étaient sévèrement limités et l'accès au tombeau du temps était devenu presque impossible. Seuls quelques pèlerinages Grichtek pouvaient encore pénétrer dans cette région. Rachel était triste que sa mère ne soit pas là pour fêter son anniversaire, mais la présence de plusieurs jeunes enfants du kibboutz contribua à la distraire un peu. Son plus beau cadeau fut un livre de contes de fées somptueusement illustré que Sarai avait choisi à la Nouvelle Jérusalem plusieurs mois auparavant. Sol lut quelques contes à Rachel avant l'heure de dormir. Il y avait 7 mois qu'elle ne savait plus déchiffrer les caractères toute seule, mais elle adorait les histoires, particulièrement La Belle au bois dormant, qu'elle lui fit relire une deuxième fois.
« Elle montrait à maman, »
dit-elle dans un bâillement tandis que Sol éteignait la lumière.
« Bonne nuit, ma petite fille, »
dit-il à voix basse en s'arrêtant sur le seuil de la chambre.
« Papa ? » ?»«
Oui ? » ?»«
Salut, poilu ! » !»«
À plus tard, tête de lard !»
Il l'entendit pouffer dans l'oreiller. Ce n'était pas tellement différent, se disait Sol les 2 dernières années, du spectacle d'un être aimé que l'on voit sombrer dans la vieillesse et la mort.
Mais c'était pis, bien pis.
Les dents définitives de Rachel étaient tombées l'une après l'autre entre 8 et 2 ans. Les dents de lait les avaient remplacées. Mais à 18 mois, elles avaient commencé à lui rentrer dans la mâchoire. Ses cheveux, dont elle tirait une si grande fierté, étaient devenus plus courts et plus fins. Son visage avait perdu peu à peu ses traits. Son menton et ses pommettes s'étaient arrondis. Sa coordination avait faibli par degrés. Un jour, elle n'avait plus été capable de tenir correctement une fourchette ou un crayon. Le jour où elle ne sut plus marcher, Sol la déposa dans son berceau plus tôt que d'habitude et s'enferma dans son bureau pour se cuiter tranquillement à mort. C'était le langage qui était le plus dur pour lui. La perte de vocabulaire était comme un pont qui brûlait entre Rachel et lui. C'était leur dernier loin d'espoir qui disparaissait. Quelque temps après son deuxième anniversaire, l'ayant bordé dans son lit, il s'était retourné sur le seuil et avait lancé « Salut, poilu !»«
Hein ?»«
Salut, poilu !» Elle avait gloussé de rire. « Il faut répondre à plus tard, tête de lard !» lui avait dit Sol. Mais il avait fallu lui expliquer ce qu'était qu'un poilu et une tête de lard.
« À ta tétard !»
avait gloussé Rachel. Le lendemain matin, elle avait tout oublié. Il emmena Rachel avec lui lorsqu'il retourna voyager dans le Retz, ignorant les médiatiques, insistant auprès de l'église Grichtek pour qu'on l'accepte dans un pèlerinage, faisant le siège du Sénat pour obtenir un visa et la permission de se rendre dans les zones interdites d'Hyperion. Il retourna voir les instituts de recherche et les établissements hospitaliers susceptibles de lui proposer un traitement pour Rachel. Plusieurs mois furent ainsi perdus, les médecins admettant un par un leur échec. Quand il rentra sur Hébron, Rachel avait 15 mois standard. Dans l'ancien système de mesure de la planète, elle pesait 25 livres et faisait 30 pouces de haut. Elle ne savait plus s'habiller toute seule. Son vocabulaire ne comportait que 25 mots, parmi lesquels « maman » et « papa » revenaient le plus souvent. Sol adorait porter sa fille dans ses bras. Il y avait des moments où le poids de sa tête contre sa joue, sa chaleur contre sa poitrine ou l'odeur de sa peau lui faisaient oublier l'injustice atroce de tout ce qu'il endurait. Dans ces moments, il aurait pu être momentanément en paix avec le reste de l'univers si seulement Sarai avait été à ses côtés. Quoi qu'il en soit, il y avait des trêves dans ses conversations furieuses avec un dieu auquel il ne croyait pas. Quelle raison peut-il donc y avoir à tout cela? Quelle raison visible y a-t-il jamais eu à la souffrance sous toutes ses formes subies par l'humanité? Exactement, pensa Sol en se demandant s'il avait marqué un point pour la première fois. Il en doutait. Le fait qu'une chose ne soit pas visible ne signifie nullement qu'elle n'existe pas. Quelle formulation maladroite! Trois négations pour aboutir à une affirmation, particulièrement aussi peu profonde que celle-là. Précisément, Sol, tu commences à comprendre où tout cela peut mener. Hein? Il n'y eut pas de réponse à cette dernière pensée. Sol demeura allongé sur son lit, écoutant le sifflement du vent du désert. Le dernier mot de Rachel fut « maman », prononcé à l'âge de 5 mois. Elle se réveilla dans son berceau et ne demanda pas, elle en était incapable, où elle était. Son univers était fait de biberons, de sommeil et de jouets en caoutchouc. Quelquefois, quand elle pleurait, Sol se demandait si c'était pour réclamer sa mère. Il faisait ses courses dans les magasins de Dan. Il emmenait le bébé avec lui quand il achetait les couches, les accessoires pour la toilette ou un nouveau jouet. La semaine qui précéda son départ pour Tocéti Central, Éphraïm et deux autres anciens lui rendirent visite pour discuter avec lui. C'était le soir et les dernières lueurs du crépuscule se reflétaient sur le crâne chauve d'Éphraïm.
« Nous nous faisons du souci pour toi, Sol, » lui dit-il. « Les semaines qui viennent vont être difficiles. Les femmes voudraient faire quelque chose pour t'aider. Nous aussi. »
Il posa la main sur le bras de l'ancien.
« J'apprécie beaucoup, Éphraïm. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi depuis des années. Nous nous sentons chez nous ici. Sarai aurait aimé. Elle aurait aimé que je vous remercie pour tout. Mais nous partons dimanche. Ne vous inquiétez pas pour Rachel. Elle va aller mieux. »
Les trois hommes assis sur le banc de bois échangèrent des regards étonnés. Avner demanda :
Ils ont découvert un traitement ?
Non.
Lui répondit Sol.
Mais j'ai une bonne raison d'espérer. L'espoir, c'est bien,
fit Robert prudent. Sol lui sourit, ses dents blanches luisant contre le gris de sa barbe.
Heureusement, murmura-t-il, quelquefois. C'est tout ce qu'il nous reste.
La caméra holo du studio zooma pour faire un gros plan de Rachel dans les bras de Sol, sur le plateau de l'émission Entre nous.
« Vous affirmez donc, » fit Devon Whiteshire, présentateur du show et troisième visage le plus populaire de toute l'infosphère du Retz, « que le refus de l'église Grichtek de vous laisser retourner dans les tombeaux du temps, ainsi que les réticences de l'hégémonie à vous fournir un visa, condamne votre enfant à l'extinction. »
« Tout à fait, » déclara Sol.
Le voyage à Hyperion ne peut s'effectuer en moins de 6 semaines. Rachel n'a plus maintenant que 6 semaines. Tout nouveau délai imposé par l'église Grichtek ou la bureaucratie du Retz se soldera par la mort de ce bébé.
Un frémissement parcourut les spectateurs présents dans le studio. Devon Whiteshire se tourna vers l'imageur le plus proche. Son visage osseux et bon enfant emplit l'écran.
Cet homme ignore s'il pourra sauver sa fille, dit-il d'une voix puissante, chargée d'intonations subtiles. Mais tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui donne une chance. Pensez-vous que son bébé et lui méritent une telle chance? Si oui, appelez vos représentants planétaires et le temple Grichtek le plus proche de votre domicile. Leur numéro devrait apparaître sur votre écran. Voilà.
Il se tourna de nouveau vers Sol.
Nous vous souhaitons bonne chance, H. Weintraub, et, posant sa large main sur la joue du bébé, bonne chance à toi aussi, ma poupée.
La caméra resta braquée sur Rachel jusqu'à la disparition de l'image en un fondu au noir. L'effet Hawking causait des nausées, des vertiges, des maux de tête et des hallucinations. Durant la première partie du voyage, d'une durée de 10 jours, effectué jusqu'à Parvati à bord d'un vaisseau torche de l'hégémonie appelé l'Intrépide, Sol garda Rachel dans ses bras, stoïque. Ils étaient les seuls passagers pleinement conscients à bord du vaisseau de guerre. Au début, Rachel pleura beaucoup. Au bout de quelques heures, cependant, elle se calma, ses grands yeux bruns continuellement levés sur lui. Sol se souvenait du jour où elle était née. Les infirmières l'avaient prise des bras de Sarai pour la lui donner. Ses cheveux n'étaient pas beaucoup plus courts que maintenant, et ses grands yeux n'étaient pas moins profonds. Finalement, ils s'endormirent tous les deux d'épuisement. Sol rêva qu'il avançait à l'intérieur d'un énorme édifice dont les colonnes avaient chacune la taille d'un séquoia géant et dont le plafond était si haut qu'on l'apercevait à peine. Une lumière vermeille baignait le vide glacé de ces lieux. Il fut surpris de voir qu'il tenait toujours le bébé dans ses bras. Rachel, enfant, n'avait jamais, jusque-là, fait partie de ses rêves. Le bébé le regardait avec intensité, et Sol se sentait en contact avec la conscience de sa fille aussi sûrement que si elle avait pu parler. Soudain, une voix différente, immense et glacée, se réverbéra dans l'édifice désert.
« Sol, prends ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et rends-toi sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. »
Hésitant, il baissa les yeux vers l'enfant. Les yeux lumineux de Rachel étaient fixés sur lui. Il perçut un « oui » muet. Il la serra un peu plus fort dans ses bras, et s'avança pour apostropher les ténèbres silencieuses.
« Écoute-moi bien. Il n'y aura plus de sacrifices, ni d'enfants, ni de parents. Il n'y aura plus d'autres sacrifices que pour nos semblables les humains. Le temps de l'obéissance et de l'expiation est passé. »
Il tendit l'oreille. Il sentait les battements de cœur de Rachel et la chaleur de son petit corps contre son bras. De tout en haut descendait le sifflement froid du vent à travers des fissures invisibles. Il mit ses mains en porte-voix autour de ses lèvres et cria
« C'est fini! Plus jamais! Laisse-nous tranquilles ou bien mets-toi de notre côté comme père et non comme demandeur de sacrifice! Tu as le choix d'Abraham !»
Rachel s'agita dans ses bras tandis qu'un grondement montait du sol de pierre. Les colonnes se mirent à vibrer. La lumière vermeille s'assombrit, puis s'éteignit, ne laissant plus que les ténèbres autour d'eux. Au loin, des pas monstrueux retentirent.
Sol serra très fort Rachel contre lui, tandis qu'un vent violent soufflait à ses oreilles. Une lueur les sortit du cauchemar. C'était celle de l'intrépide, à bord duquel il fonçait vers Parvati pour embarquer sur le vaisseau-arbre Yggdrasil à destination de la planète Hyperion. Sol sourit à sa petite fille âgée de 7 semaines. Elle lui rendit son sourire. Ce devait être le dernier, ou le premier. La cabine principale du chariot avant demeura quelque temps plongée dans le silence lorsque le vieux lettré eut fini son récit. Sol Weintraub s'éclaircit la voix et but un peu d'eau dans un gobelet de cristal. Rachel dormait profondément dans le berceau improvisé avec un tiroir. Le chariot avant oscillait doucement dans sa course. Le ronflement de la grande roue et le bourdonnement du gyroscope principal formaient un fond sonore qui les berçait.
« Mon Dieu !»
dit Brown Lamia à voix basse. Elle était sur le point d'ajouter quelque chose lorsqu'elle se ravisa en secouant la tête. Les yeux fermés, Martin Silenus récita
« Puisque par le rejet de la moindre rancœur, l'âme recouvre, libre, une entière innocence, et reconnaît enfin qu'elle donne naissance elle-même à sa paix, son bonheur, et que son doux vouloir est le vouloir divin, quand bien même on lui ferait la tête, quand même 20 soufflets gronderaient en tempête. » Mon enfant peut garder un cœur doux et serein.
William Butler Yeats ? Demanda Sol Weintraub. Silenus hocha la tête.
Prière pour ma fille, dit-il.
Je crois que je vais aller prendre un peu l'air sur le pont avant de rentrer, déclara le consul. Quelqu'un veut-il m'accompagner ? Tout le monde le suivit. La brise soulevée par leur passage était rafraîchissante, tandis qu'ils se tenaient sur le gaillard d'arrière, contemplant la mer des hautes herbes qui défilaient en grondant sous eux. Le ciel au-dessus d'eux était une grosse soupière saupoudrée d'étoiles et sillonnée de météores. Les voiles et le gréement craquaient, produisant des bruits aussi vieux que les premiers temps des voyages humains.
« Je pense que nous devrions monter la garde cette nuit, » déclara le colonel Cassad. « Une sentinelle veillera pendant que les autres dormiront. Elle sera relevée toutes les 2 heures. »
« D'accord, » fit le consul. « Je prends la première garde. »
« Demain matin, »
commença Cassad.
« Regardez !»
s'écria le père Hoyt. Ils suivirent la direction de son doigt. Entre les constellations scintillantes, des boules de feu multicolores éclataient, vertes, mauves, orangées, et de nouveau vertes, illuminant la grande plaine herbeuse autour d'eux comme des boules de foudre en grappe. Les étoiles et les météores, à côté de ce feu d'artifice soudain, étaient devenus pâles et insignifiants.
« Des explosions ?»
demanda le prêtre.
« Une bataille spatiale, » estima Cassad. « 6 lunaires. Arme de fusion. »
Il descendit rapidement dans l'entrepont.
« L'arbre !»
s'exclama Hetmastin. Il désigna une tache de lumière qui se déplaçait au milieu des explosions comme un brandon au milieu d'un feu d'artifice. Cassad remonta avec ses jumelles à amplification qu'il fit passer à tout le monde.
« Les extros ? » demanda Lamia. « Ils ont lancé leur invasion ?»«
Il y a de fortes chances pour que ce soit les extros, » répondit Cassad. « Mais je pense qu'il s'agit seulement d'un raid de reconnaissance. Vous voyez les essaims ? Là, ce sont les missiles de l'hégémonie que font exploser les systèmes de contre-mesure des croiseurs extro. »
Les jumelles arrivèrent jusqu'au consul. Les éclairs étaient maintenant bien visibles, avec leur couronne de flammes brèves. Il discerna l'ombre et la traîne d'au moins 2 croiseurs, poursuivis par des vaisseaux de l'hégémonie.
« Je ne crois pas, » commença Cassad.
Il s'arrêta net, tandis que les voiles de leurs chariots et les herbes de la plaine s'embrasaient d'une lueur orange.
« Mon Dieu !» murmura le père Hoyt. « Ils ont touché le vaisseau arbre !»
Le consul braqua les jumelles sur la gauche. On voyait le nimbe grandissant des flammes à l'œil nu. Mais avec les jumelles, le tronc principal 1 kilomètre de long et les branches secondaires de l'Yggdrasil demeurèrent un instant visibles, entourés de longues flammes qui se courbaient dans l'espace sous l'effet des champs de confinement saturés et de l'oxygène qui brûlait. Puis le nuage orangé se contracta, devint flou et s'effilocha, rendant le tronc visible l'espace 1 seconde, alors même qu'il s'embrasait 1 dernière fois et disparaissait comme les dernières braises d'un feu qui s'éteint. rien n'avait pu survivre. Le vaisseau-arbre Yggdrasil avait péri avec tout son équipage, ses clones et ses maîtres d'ergue semi-sentients. Le consul se tourna vers Etmastine et lui tendit un peu tard les jumelles.
« Je suis navré, » murmura-t-il.
Le Templier ne prit pas les jumelles. Lentement, il baissa la tête, rajusta son capuchon, puis descendit sans dire un mot. Le vaisseau-arbre se désintégra dans une explosion finale. 10 minutes plus tard, lorsque la nuit fut redevenue calme, Brown Lamia demanda
« Vous croyez qu'ils les ont eus tous ?»«
Les extros ?» demanda Cassad.
« Il est probable que non. Ces croiseurs sont faits pour la défense et la rapidité. Ils doivent déjà être à des minutes de lumière.
Est-ce que le vaisseau arbre était leur objectif principal, à votre avis ?»
demanda Silenus, qui semblait soudain étrangement sobre.
« Je ne crois pas. » répondit Cassad. Il formait pour eux une cible tentante, c'est tout.
Une cible tentante,
répéta Sol Weintraub en secouant la tête.
Je crois que je vais aller me reposer quelques heures, ajouta-t-il.
L'aube n'est plus très loin. Un par un, les autres le suivirent. Cassad et le consul demeurèrent seuls sur le pont.
Où dois-je monter la garde? Demanda le consul. Faites une ronde, suggéra le colonel. De la coursive au pied de l'échelle de descente, vous pouvez surveiller toutes les portes des cabines et l'entrée de la cambuse et de la salle à manger. Vous pouvez ensuite monter sur le pont et sur la passerelle. Laissez les lanternes allumées. Avez-vous une arme ?
Le consul secoua négativement la tête. Cassad lui tendit son bâton de la mort.
Il est réglé sur faisceau serré, dit-il. Environ 50 cm sur une distance de 10 mètres. Ne vous en servez que si vous êtes sûr d'avoir vu un intrus. La pastille piquetée qui glisse en avant est la sécurité. Elle est enclenchée.
Le consul hocha la tête en s'assurant que son doigt n'était pas en contact avec le bouton de tir.
Je viendrai prendre la relève dans 2 heures, annonça Cassad.
Il consulta son persoc.
L'aube se lèvera avant la fin de ma faction, ajouta-t-il.
Il leva les yeux vers le ciel, comme s'il s'attendait à voir l'Yggdrasil réapparaître et continuer son chemin comme une luciole à travers le ciel. Mais seules les étoiles scintillaient là-haut. À l'horizon nord-est, une masse noire en mouvement annonçait un orage.
« Quel gâchis !»
fit le colonel Cassad en secouant la tête. Puis il descendit dans l'entrepont. Le consul demeura quelques instants au même endroit, écoutant le bruit du vent dans la toile, le craquement du gréement et le grondement de la roue. Au bout d'un moment, il se tourna vers le bastingage et contempla les ténèbres perdues dans ses réflexions.